Chapitre 4. Il y eut de nouveau un bref silence, mais uniquement parce que les pensées sont silencieuses. Celle de Seldon était passablement tumultueuse. Oui, c'était vrai. Son épouse semblait avoir une troublante connaissance des robots. Harry s'était si souvent interrogé là-dessus au cours des dernières années qu'il avait fini par renoncer et ranger ses doutes au fond de son esprit. Sans Eto Demerzel, un robot, il n'aurait jamais connu Dorse, car Dorse travaillait pour Demerzel. C'était Demerzel qui avait assigné Dorse à Seldon 8 ans auparavant, avec mission de le protéger durant sa fuite à travers les divers secteurs de Trentor. Même à présent qu'elle était sa femme, sa secrétaire, sa meilleure moitié, Harry s'interrogeait encore parfois sur les rapports curieux de Dorse avec le robot Demerzel. C'était le seul domaine de la vie de son épouse qui lui semblait étranger, voire interdit. Et cela l'amenait à se poser la plus douloureuse de toutes les questions. Était-ce par obéissance pour Demerzel que Dorse restait avec Harry? Ou bien réellement par amour pour lui? Il voulait croire en ce dernier motif, et pourtant... Sa vie avec Dorse Venabili était certes heureuse, mais à cela il y avait un prix, une condition d'autant plus contraignante qu'elle avait été instaurée non pas à la suite d'une discussion ou d'un commun accord, mais par un agrément mutuel, tacite. Seldon savait qu'il avait trouvé en Dorse tout ce qu'il recherchait chez une femme. Certes, il n'avait pas d'enfant, mais Harry n'avait jamais escompté en avoir, ou pour être sincère, n'en avait pas franchement désiré. Il avait Reich qui, aux yeux de son cœur, était un fils tout autant que s'il avait hérité du génome seldonien, si ce n'est plus. Le simple fait que Dorse l'amena à réfléchir sur la question rompait l'accord qui leur avait permis de vivre toutes ces années dans le calme et la paix. Et il en conçut un ressentiment imperceptible, mais grandissant. Mais il chassa de nouveau ses pensées, ses interrogations. Il avait appris à accepter son rôle de protectrice et continuerait à le faire. Après tout, c'était avec lui qu'elle partageait le logis, la table et le lit, pas avec Eto Demerzel. La voix de Dorse le tira de sa rêverie. Je disais, ruminerais-tu, Harry? Il sursauta, car le ton sous-entendait la répétition. Et il se rendit compte qu'il s'était progressivement isolé dans ses pensées. « Excuse-moi, ma chérie. Non, je ne ruminais pas, pas délibérément. Je me demandais juste comment je devais réagir à ta remarque. Au sujet des robots ?» Le mot ne semblait pas la troubler. « Tu disais que je n'en savais pas autant que toi à leur sujet. Comment dois-je réagir à cela ?» Il marqua un temps, puis ajouta bien vite, conscient de prendre un risque. « Je veux dire... sans me vexer. Je n'ai pas dit que tu n'y connaissais rien en robot. Si tu me cites, fais-le avec exactitude. J'ai dit que tu ne comprenais pas tout sur les robots. Je suis sûr que tu connais bien des choses sur la question, peut-être même plus que moi. Mais savoir n'est pas nécessairement comprendre. À présent, voilà que tu manies le paradoxe alors que tu sais que ça m'agace. Un paradoxe jaillit d'une ambiguïté trompeuse par mégarde ou à dessein. Je n'aime pas les paradoxes dans la science, et je ne les aime pas plus dans la conversation de tous les jours, sauf dans un but humoristique, ce qui ne me semble pas être le cas en l'occurrence. Dorse rit de son rire particulier, très doux, presque comme si l'amusement était bien trop précieux pour être répandu à tous les vents. Quand quelque chose t'agace, tu deviens pompeux et tu es toujours drôle lorsque tu es pompeux. Malgré tout, je vais m'expliquer. Loin de moi l'intention de t'agacer. Elle s'avança pour lui tapoter la main et Seldon découvrit, avec quelque surprise et non sans un certain embarras, qu'il avait serré le poing sur la table. Tu parles beaucoup de psychohistoire, reprit Dorse, avec moi. Tu t'en rends compte? Seldon se racla la gorge. « Je m'en remets entièrement à toi, du moins dans ce domaine. Le projet est secret par sa nature même. La psychohistoire ne peut fonctionner que si les individus qu'elle affecte en ignorent tout. Aussi ne puis-je en parler qu'à vous deux, Hugo et toi. Pour Hugo, tout se ramène à l'intuition. Il est brillant, mais il a une telle tendance à foncer dans l'inconnu que je dois en permanence jouer les rabat-joie pour le retenir. Mais j'ai mes idées folles, moi aussi. Et cela m'aide parfois de les énoncer tout haut. Il sourit. Même si j'ai l'impression que tu ne saisis pas un mot de ce que je raconte. Je sais que je suis ta caisse de résonance et cela ne me gêne pas, vraiment pas, Harry. Alors ne commence pas à prendre de secrètes résolutions pour changer ton comportement. Bien sûr que je ne comprends rien à tes mathématiques, je ne suis qu'une historienne et même pas une historienne des sciences. L'influence des changements économiques sur l'évolution politique, voilà ce à quoi je consacre mon temps pour l'instant. Je suis ta caisse de résonance en cette matière, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. J'aurais grand besoin de tes connaissances pour la psychohistoire le moment venu. Aussi, je soupçonne que ton aide me sera alors indispensable. Bien ? Maintenant que nous avons défini pourquoi tu restais avec moi, je savais bien que ce ne pouvait pas être pour ma beauté éthérée. Laisse-moi continuer à t'expliquer que parfois, quand ton exposé s'éloigne du strict aspect mathématique, il me semble saisir ton idée générale. Tu m'as plus d'une fois expliqué ce que tu appelles l'exigence du minimalisme. Je crois avoir compris. Par cette expression, tu entends « je sais ce que j'entends ». Dors prit un air blessé. Moins de condescendance, Harry, s'il te plaît. Je n'essaye pas de te l'expliquer, je cherche à me l'expliquer à moi-même. Tu dis que tu es ma caisse de résonance, alors comporte-toi comme telle. Chacun son tour. C'est équitable, n'est-ce pas ?
Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais si c'est pour m'accuser de condescendance quand je fais une simple « ça suffit, tais-toi ».
Tu m'as dit que ce minimalisme était de la plus extrême importance en psychohistoire appliquée. Tout l'art est d'essayer de transformer un développement indésirable en un autre, sinon désiré, en tout cas moins indésirable. Tu as démontré qu'il convenait d'opérer la modification la plus infime, la plus simple possible.
Oui, s'empressa de confirmer Seldon.
C'est parce que non. Non, Harry. C'est moi qui essaye d'expliquer. Nous savons l'un et l'autre que toi tu as compris. On doit appliquer le minimalisme parce que tout changement, quel qu'il soit, entraîne une myriade d'effets secondaires pas toujours opportuns. Si le changement est trop brutal et ses effets trop nombreux, il devient alors certain que l'issue s'éloignera des plans initiaux au point d'être entièrement imprévisible.
« Exact, » dit Seldon. « C'est l'essence de la théorie du chaos. Le problème est de savoir s'il existe une modification assez minime pour que ses conséquences soient raisonnablement prévisibles ou si l'histoire humaine est inévitablement, inéluctablement, chaotique sous tous ses aspects. C'est cela qui, au début, m'a conduite à penser que la psychohistoire n'était pas « je sais, mais tu ne me laisses pas terminer ». La question n'est pas de savoir s'il existe un changement suffisamment minimal, mais de savoir si tout changement supérieur au minimum conduit nécessairement au chaos. Le minimum requis peut être égal à zéro. Or, si ce n'est pas le cas, il reste de toute manière très petit. Trouver un changement assez petit, quoique significativement différent de zéro, risque de se révéler un problème d'envergure. Voilà, je suppose, ce que tu entends par nécessité de minimalisme.
Plus ou moins. Bien sûr, comme toujours, le problème s'exprime de manière plus compacte et rigoureuse dans le langage mathématique. Vois-tu, épargne-le-moi. Puisque tu connais ce principe concernant la psychohistoire, Harry, tu devrais savoir qu'il s'applique également à Demerzel. Tu détiens le savoir, mais pas la compréhension. Car il ne t'est apparemment pas venu à l'esprit d'appliquer les règles de la psychohistoire aux lois de la robotique. À quoi Seldon répondit d'une voix faible.
Cette fois, je ne vois vraiment pas où tu veux en venir.
Le minimalisme est également une exigence pour lui, Harry. D'après la première loi de la robotique, un robot ne peut nuire à un être humain. C'est la règle principale pour le robot ordinaire, mais Demerzel n'a rien d'un robot ordinaire.
Pour lui, la loi zéro est une réalité qui prend le pas sur la première loi. La loi zéro dit qu'un robot ne peut nuire à l'humanité dans son ensemble. Mais cela soumet Demerzel à la même contrainte que tu connais dès que tu abordes la psychohistoire. Est-ce que tu vois ?
Je commence.
Je l'espère. Si Demerzel a la capacité de changer les esprits, il doit le faire sans induire d'effets secondaires indésirables. Et puisqu'il est le premier ministre de l'empereur, les 10 effets secondaires sont passablement nombreux.
Et l'application au cas présent ?
Réfléchis un peu. Tu ne peux révéler à personne, moi excepté bien sûr, que Demerzel est un robot, car il a fait en sorte de t'en empêcher. Mais à quel degré d'influence t'a-t-il soumis ? Peux-tu révéler aux gens que c'est un robot ? Peux-tu ruiner son efficacité alors que tu dépends de lui pour ta protection, pour l'attribution de tes subventions, pour l'influence qu'il exerce discrètement en ta faveur ? Évidemment pas. Le changement qu'il doit opérer est donc extrêmement infime, juste suffisant pour t'empêcher de lâcher le morceau dans un moment d'excitation ou d'étourderie. Un changement si imperceptible qu'il n'aura pas d'effet secondaire décelable. Voilà comment Demerzel essaye de diriger l'Empire d'une manière générale. Et pour Johannum, son cas est à l'évidence complètement différent du tien. Quelles que soient ses raisons, il est farouchement opposé à Demerzel. Sans aucun doute, ce dernier pourrait y remédier, mais ce serait au prix d'altérations considérables du caractère de Johannum, ce qui induirait des résultats que Demerzel n'est pas à même de prévoir. Plutôt que prendre le risque de toucher à Johannum et de produire des effets secondaires nuisibles à des tiers, et peut-être à l'ensemble de l'humanité, il doit le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il ait trouvé un changement assez minime pour sauver la situation sans risque. C'est pourquoi Hugo a raison. Demerzel est vulnérable. Seldon avait écouté, mais il ne réagit pas. Il semblait abîmé dans ses pensées. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il ne réponde. Si Demerzel ne peut rien faire, alors c'est à moi d'agir. S'il est impuissant, que peux-tu, toi ? Le cas est différent. Je ne suis pas lié par les lois de la robotique. Je n'ai pas à me polariser sur le minimalisme. Pour commencer, il faut que je voie Demerzel.
Dorse parut légèrement inquiète. Est-ce indispensable ? Il serait certainement malvenu de dévoiler un rapport entre vous deux.
Au point où nous en sommes, on ne peut plus se voiler la face ou faire comme s'il n'y avait pas de rapport. Naturellement, je ne vais pas m'y rendre en fanfare et annoncer l'entrevue à l'Holovision, mais il faut que je le voie.